jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Donc je te propose de fermer les yeux. On va repartir dans l'enfance, dans la vie de Louis.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Qui es-tu? D'où viens-tu?
Et est-ce que tu es né entrepreneur?
Ça fait déjà beaucoup de questions.
Très introspective.
Je peux répondre déjà à la dernière, non. Mm-hmm. Je pense que ça n'a aucun sens d'ailleurs de se dire entrepreneur.
Ah ouais?
Ouais, non.
Je sais pas. Du coup, si tu peux développer.
Mais parfois, on a des entrepreneurs, pour le coup, qui ont, par exemple, qui sont issus d'une famille plutôt d'entrepreneurs. Donc, ils ont vu leur père ou leur mère dans la création d'entreprise ou dans la direction d'entreprise. Et puis, parfois, complètement d'autres cultures, de socialement, classes sociales différentes, ou également, parfois, des fils de profs ou des fils de personnes qui ont eu des vies intéressantes et riches, mais qui sont très, très loin du monde purement entrepreneurial. Donc, on se demande toujours d'où ça vient.
Ouais, en fait, j'ai toujours un peu du mal avec cette notion, tu sais, de... alors, les Américains, ils adorent ça, t'es « I'm an entrepreneur »,« I'm a serial entrepreneur », enfin, tu sais, c'est genre...
Oui, parce que toi, ça va plus loin, c'est de te définir comme entrepreneur,
c'est ça qui me gêne.
C'est même pas...
Il se trouve que, oui, techniquement...
T'as créé une boîte.
J'ai créé une boîte, ouais. Donc je suis entrepreneur, enfin... Mais j'ai toujours été gêné par les gens qui se définissent comme entrepreneur, tu sais, comme si... je sais pas, c'est une sorte de c'est, je sais que c'est ce que je veux faire de la vie, et il y a un côté un peu cool de monter des boîtes, c'est maintenant, on starise vachement les fondateurs de boîtes, et du coup, t'as vraiment des mecs qui créent des sortes de fausses boîtes ou qui se disent, enfin, je trouve ça assez gênant.
C'est
en fait.
Pour draguer en soirée.
Hein?
C'est pour draguer en soirée.
Ouais, je sais pas, ça fait 20 ans que, presque 20 ans que je suis presque marié. Donc, si tu veux, ça ne me concerne point. Mais,
Je peux dire que je suis presque entrepreneur.
Voilà, exactement. Non, presque, parce qu'on n'est pas marié, mais on a 3 enfants, donc je pense que ça compte.
Ça compte
pour quelque chose. Mais tu vois, voilà, c'est un peu, je pense pas que tu montes une boîte pour dire que t'es entrepreneur, quoi. Les gens qui montent une boîte pour dire qu'ils ont monté une boîte, généralement, ça se passe pas très bien. La question, c'est juste, t'as un truc qui te fait, tu vois, t'as le problème que t'as envie de résoudre, trouve ça intéressant, t'as envie de te lancer dedans. Et je me définis pas comme entrepreneur, non. Ça t'en va pas.
Alors, du coup, qui es-tu?
Ah, c'est encore plus dur.
Ouais.
Ça, c'est.
Ah, ouais, t'as voulu expliquer par quoi tu ne te définissais pas, mais on a envie de comprendre qui tu es.
Il a tenté de s'esquiver.
Ouais. Encore une tangente.
Ouais, non, attends, on peut continuer, mais. Non, je sais pas comment est-ce que tu te définis. Tu peux te définir par ce que tu es ou ce que tu as. Ou ce que
t'aimes. Ce que tu fais, ce que t'aimes, ce qui t'intéresse.
Non, qui est-ce que je suis? Je suis un monsieur. On se bat comme monsieur, un garçon, comme tu veux. De 37 ans, ce qui est pas si vieux et pas si jeune, qui a 3 enfants, qui habite à Versailles, ça je pense que c'est très rare ici, donc je vais te dire, et qui, il se trouve à monter une boîte de paiement fractionné. Et à la base, si on oublie un peu la on a déjà parlé pendant assez longtemps, je pense que je suis un alors geek, c'est vachement la mode, mais il y en a pour qui c'est vrai. Moi, à la base, j'aime beaucoup, beaucoup la tech, quoi. C'est un truc qui me fait, c'est un peu j'ai le cerveau câblé pour ça. J'aime bien comprendre comment fonctionnent les systèmes, qu'ils soient techniques ou même un peu plus globaux, mais j'aime bien comprendre comment fonctionne le monde.
Comprendre les rouages.
Les rouages, tu vois.
Les connexions.
J'ai un des bouquins que je lis en ce moment, c'est Inside the Machine, qui est en gros sur l'architecture des microprocesseurs, quoi. Ça me fait vibrer. J'aime bien la tech.
C'est, si on se reprojette un peu plus loin dans les débuts de ta vie, il y a eu des premiers indices de ce geek que tu allais devenir?
Indice, je sais pas, j'ai commencé à coder à 7 ans, donc je pense que c'était
un indice
assez parlant. Le premier programme que j'ai codé, c'était, j'avais déjà dit dans un podcast, mais je trouve ça assez marrant. Le premier programme que j'ai codé, en fait, c'est un mot de passe sur l'ordinateur de ma petite sœur, pour la faire chier. Et en fait, elle avait, j'avais 7 ans, elle en avait 5. Et mes parents lui avaient acheté cette espèce d'ordinateur en plastique, espèce de Genius 2000. Et donc, t'avais sur une dizaine de jeux où t'appuyais sur le bouton, t'avais le pendu, t'avais le machin et tout. Et dans les jeux, il y avait un jeu qui s'appelait Basic. Et, j'appuie sur le bouton, tu vois, pour voir ce qui se passe. J'appuie, c'est Basic. Et j'en juge un curseur qui clignote. Mais quelle est cette chose? Tu vois, tu te dis, mais attends, comment c'est possible qu'il y ait un jeu que je comprenne pas? Donc, je récupère le manuel du Genius 2000 et t'as vraiment un cours de Basic. Donc de programmation, en fait, c'est vraiment pour créer des programmes. Et le premier programme que je crée, c'est un mot de passe. Donc un truc très bizarre, enfin très simple, hein, tu vois, genre un prompt, donne un mot de passe, et puis ça marche pas. En fait, le programme ne finit pas. Et donc j'ai trollé ma petite sœur avec ça. Ça l'a fait évidemment fondre en larmes. Mes parents m'ont foutu une baffe. C'est mal fini, mais premier programme pour troller ma petite sœur.
Ok, donc là, on est en quoi? En 90,
92, 13, un truc comme ça. Ouais. J'avais 7-8 ans dans ces eaux-là.
Si on reste dans cette période de l'enfance, est-ce qu'il y a des mantras, en tout cas des choses que t'ont légué, hein, peut-être intellectuellement, tes parents qui te servent aujourd'hui ou qui te guident encore aujourd'hui? Après, c'est peut-être tes parents parce que c'est, ouais, c'est ce qui peut paraître évident, mais des fois, on a d'autres sources d'inspiration qui nous ont guidés.
Ouais, alors, il y a un truc, faut que je montre. J'ai une famille un peu bizarre et on avait fait un ranking de tous les membres de la famille du plus bizarre au moins bizarre et j'étais arrivé avant-dernier. ce qui en dit assez long sur le reste de la famille quand ils pensent. Donc ouais, un peu une famille de...
Ah, le premier étant le plus bizarre.
Voilà, c'est ça. J'étais arrivé dans les plus normaux.
C'était peut-être pas encore complètement révélé.
Non, c'était il y a pas longtemps. Non, il y a aucun problème. J'ai une mère qui est artiste, donc qui est sculpteur, peintre, dessinatrice, qui a, avant elle fait des études d'art graphique et qui a bougé plutôt sur l'art entre guillemets tout court. Un père qui a fait alors je sais pas 4 ou 5 métiers, faut que je compte, mais il a commencé ses études de médecine, après il a fait du rallye automobile, donc sport automobile à très haut niveau puisqu'il a été champion de France plusieurs fois. Ensuite il a arrêté, je crois que là il a fait du théâtre, ça marchait moins bien d'ailleurs que le sport. Puis il a bossé comme patron d'écurie de rallye chez Citroën, si je dis pas de conneries. Après, il est redevenu médecin et maintenant il est retraité. Tu vois.
Il y a eu un film sur lui, non ? Arrête-moi si tu
ouais,
peux.
Ouais, ouais, ça, tu vois. Non mais et du coup, si tu veux, le quand tu parles de rôle modèle, tu vois, genre je viens pas d'espèce de famille de businessmen hyper successful. Je viens pas d'une famille de... En fait, j'ai une famille un peu de Roman Échelle un peu bizarre qui ont plutôt bien réussi.
Mais je pense qu'on comprend mieux ta vision de je me définis pas sur juste bizarre, ma boîte du moment quoi. Ouais.
Évidemment, ça, enfin, je trouve ça pas de sens. Mais s'il y a un truc qui est important, je trouve, dans cette famille, c'est ce côté. En fait, on s'en fout de ce que tu fais.
C'est libre.
Mais ce que tu fais, fais-le bien quoi. En gros, il y a rien de plus chiant que les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, who don't care, right? C'est un peu le vrai sujet. Il faut être impliqué. Tu vois, c'est vraiment, mon père m'a dit, je m'en fous, tu fais pizzaiolo, ok, tu fais pizzaiolo si tu veux,
mais
tu fais les meilleures pizzas du monde, d'accord?
Du monde,
tu
vois, ouais,
c'était un peu, et je trouve que c'est une valeur qui est intéressante, quand même, ça fout un peu la pression, mais je trouve ça intéressant de se dire, en fait, et je pense que c'est assez rare, en fait, les familles, je te jugerai pas pour ce que tu fais, je te jugerai sur la manière dont tu le fais. Fais-le avec passion et tu peux faire ce que tu veux, je serai heureux pour toi. Fais-le en dilettante, tu vois. Et je me rappelle très bien quand je suis entré, j'ai commencé à carrière dans le conseil parce que je savais pas ce que je voulais faire. Je suis entré chez Bain. J'ai rien contre Bain, mais bon, le conseil c'était quand même pas ma tasse de thé. J'étais pas vraiment fait pour. Et puis je raconte un peu ce que je fais à mon père et je vois son visage qui se dit, franchement, ça me fait chier quoi. et il le dit pas, tu vois, parce qu'il a pas envie. Après, il va être méchant, mais je vois bien qu'il se dit, c'est pas... Il ressentait pas la passion, il ressentait pas l'espèce de truc. Donc
t'avais pas envie d'être le meilleur consultant du monde, peut-être.
Ouais, alors déjà,
ça devait se sentir.
Jamais je l'aurais été parce que j'avais pas le niveau. Je suis pas fait pour ce métier. Mais tu vois, donc, ce côté un peu, si tu fais quelque chose, fais-le bien. Et moi, j'essaie de m'entourer beaucoup de gens qui ont, tu vois, espèce de passion. Il y a un truc qui te parle de leur métier. Tu vois, genre, encore une fois, qui m'apprennent des choses. Tu vois, quand je parle avec ma femme de médecine, donc elle est médecin généraliste, elle bosse dans une maison de santé. Tu vois, genre, j'apprends des trucs tous les jours genre j'avais une vision de la médecine avant qu'elle m'explique le truc qui était complètement délirante, très française mais complètement délirante. Et elle m'a appris un peu ce, tu vois, à quoi ça ressemble, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que les gens aient mieux. Enfin, si tu fais quelque chose, t'es pas obligé de t'y mettre.
Faut rentrer dans le mécanisme.
Ouais. Et c'est pas une question de bosser 200 heures par semaine, ce qui déjà n'est pas possible. Mais tu vois, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est par contre de te dire. T'es dedans, tu le fais sérieusement, tu le prends sérieusement. Je pense qu'un des mantras qu'on a dans cette famille, c'est, sois sérieux sans te prendre au sérieux.
Est-ce qu'il y a cette idée d'être du coup pleinement présent au moment où on est là ? Et ça reboucle un peu avec l'échange qu'on avait tout à l'heure sur ta manière de travailler où tu t'enfermes pour être concentré.
Ouais. Alors, je sais, ça c'est peut-être parfois un truc familial et peut-être un truc. On est là, on est pas forcément tous d'accord, tu vois. Mais c'est un truc très personnel. Je fais la guerre au smartphone et au laptop ouvert en réunion. Mais pour moi, si je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Je suis pas sur mon téléphone. Si je suis sur mon téléphone, dans ce cas-là, je sais que je suis pas avec la bonne personne, tu vois. Mais si je prends un café, si je prends un déjeuner, si je discute, je suis pas, sauf urgence, bah comme tout à l'heure, parce qu'on a un petit sujet sur le feu là, chez Alma à gérer. Mais s'il y a pas de, en gros, Tu vois, si je suis en train de prendre le téléphone et enfin juste c'est qu'il y a un problème quoi, tu vois. Donc quand je bosse, je suis dessus. Quand je bosse pas, je suis pas dessus. J'arrive plutôt pas trop mal à déconnecter.
À bien couper.
Et si je suis avec quelqu'un, tu vois, j'essaie de mettre faire en sorte que mon téléphone soit pas dans la même pièce que moi à la maison. Donc en fait, je suis avec mes gamins, mon téléphone il est pas au même endroit
parce
que je
veux pas qu'on me... Superman. Mmh.
Sachant qu'il y avait pas de smartphone à l'époque. Donc il avait pas le problème. Clark Kent connaissait pas sa chance.
Et je repensais au sujet finalement geek tech, informatique. C'est du coup quelque chose que tu as voulu faire pour tes études, mais du coup, tu as commencé avant, donc 7 ans, c'est effectivement assez inhabituel. On a vu parfois des entrepreneurs qui ont commencé à coder très jeunes, voire créer leur entreprise ou un premier site internet. Je me rappelle notamment de Open Classroom, ouais. Par exemple. Hein,
ils ont Pierre Dubuc geek, et Mathieu Nebra. Ouais.
Et donc là, c'était au niveau collège, etc. Mais, et donc, tu as un côté, effectivement, où tu t'es auto-éduqué. Enfin, c'est quelque chose qui t'a plu dès le départ. C'est-à-dire que t'aurais pu finalement ne pas faire d'études, par exemple, et commencer directement.
Ouais, alors faut pas trop me lancer sur celui des études parce que le système scolaire à peu près dans tous les pays du monde et la France fait pas exception et assez désastreux. On pourra en parler, mais je sais pas que les études ne servent à rien et je prétendrai jamais que j'ai rien appris, mais loin de là, j'ai appris plein de trucs. J'ai aussi fait des cours hyper intéressants. J'étais sur la fabrication des puces électroniques, je me rappelle en troisième année à l'X, je trouvais ça trop cool. Ça ne sert absolument à rien dans le métier que je fais, dans aucun des métiers que j'ai fait, mais c'est foutrement cool de comprendre comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que quand tu mets de l'électricité dans un ordinateur, il se passe quelque chose. Mais ouais, j'ai appris beaucoup sur le tas et aussi quand même pas mal à l'X. Hein.
Ça se résume en 30 secondes, une minute?
Ouais, alors...
est-ce que ça apprend quelque chose?
Ouais, bah, carrément, non, ça peut se résumer. Alors après, pour y aller, pour vrai, il faut des schémas, mais concrètement, l'idée, c'est quoi? C'est de te dire que tu mets... en fait, tu transformes ta vision du monde en ce qu'on appelle la logique booléenne. La logique booléenne, c'est vrai ou c'est faux. On pourrait appeler ça la logique américaine, hyper manichéenne, tu sais, il n'y a pas d'entre deux, quoi. C'est 1 ou 0.
C'est bien ou le mal, voilà. Voilà.
Donc t'es à 5 volts ou t'es à 0 volts. Hein. Grosso modo, c'est les deux voltages qui prennent 1 ou 0. Et en fait, tu crées ce qu'on appelle des portes logiques, des et, des ou, des non, où tu dis A et B est vrai que si A est vrai et B est vrai, d'où le nom. A ou B, c'est vrai si l'un des deux est vrai ou si les deux sont vrais. Et en fait, avec ces trois building blocks et seulement ces trois-là, et ou et non, non c'est l'inverse, hein, tu inverses le, tu vois, ouais. Si c'est vrai, ça devient faux, etc. Avec ces trois trucs, tu peux commencer à créer, par exemple, un additionneur. Donc tu peux en fait simplement, avec ces trois portes logiques, créer un circuit qui va additionner des nombres binaires ou qui va les multiplier. Et en fait, c'est tu crées vraiment des puces qui commencent à faire des opérations de plus en plus compliquées. Après, je vais pas rentrer dans comment est-ce que tu crées, tu vois, c'est quoi à quoi ça sert l'horloge dans un microprocesseur, c'est quoi le pipeline des différentes étapes, tu vois. Là, ça devient très compliqué, mais la logique intrinsèque, c'est ces fameuses portes logiques, comment tu les crées à partir de transistors et comment tu les combines pour créer quelque chose qui, in fine, fait un ordinateur. Et pour la petite histoire, je suis en train de tenter d'en faire des en Lego technique. Alors, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais un de mes petits projets en ce moment, c'est de faire un additionneur binaire.
En
logique rotationnelle, en Lego technique. Donc en fait, en recréant ces portes logiques et en les combinant, ça prend vachement de place parce que, et du coup, tes problèmes qui étaient des problèmes logiques deviennent des problèmes techniques parce que tout à coup, t'as de la taille frottement, ouais. T'as les machins qui arrivent fut et tu tournes le truc et juste, hein, tu dérailles des roues et tout. Donc ça, c'est marrant. Faut réfléchir aussi à comment est-ce que tu mets tes axes pour pas que ça se pète. Voilà. Enfin, faut que je finisse un jour, mais c'est assez marrant.
Tu le fais tout seul ou tu joues avec tes enfants?
Ouais, alors celui-là je le fais tout seul parce qu'il est un peu précis quand même. Hein. C'est quand même un petit peu de chaque porte logique fait à peu près. Tu vois, ça fait cette taille-là, ça fait genre 20 cm.
On voit pas, mais ça représente une grosse boule de pétanque là. Ouais.
Ouais, une très grosse. Ouais, ça représente un petit Robert. Hein. Ça représente le petit Robert. Et ça, c'est juste pour faire un et. Et dans un additionneur, t'en as, je sais plus combien, t'en as, je crois 7 quoi. T'as 7 portes logiques plus ou moins compliquées. Ça, je fais tout seul. Par contre, Lego ou n'importe quel autre jeu, j'adore jouer. J'en fais plein avec mes enfants. On a, je sais pas combien, 10 de jeux à la maison pour les grands, les petits. Enfin, ouais, ça, j'adore.
Tu as combien d'enfants?
3.
Qui ont de quel âge à quel âge?
8, la grande a 8 ans et demi, ensuite on a 6 ans et 2 ans. Donc on a, pour celle de 2 ans, mon premier jeu de parcours, le premier verger. On n'a pas encore réussi à inculquer les règles, mais elle s'éclate. On a les Lego techniques.
Premier verger, c'est avec les petites carottes et les petits pois?
Ouais, alors du coup, c'est avec ça. Les pommes et les poires, mais c'est même, c'est même avec le corbeau qui va les bouffer et tout. Un niveau stress ultime, tu vois, genre peut-être que tu vas réussir à choper des fruits avant que le corbeau rentre dans le jardin. Enfin, il y a de l'enjeu, tu vois. Et puis après, on a des jeux, tu vois, des jeux vraiment de réflexion. On a mis les deux grands échecs. On joue à Blocus, Catan, Labyrinthe. Enfin, t'as plein de. Franchement, c'est moi, j'adore jouer avec ça.
Et le jeu, une manière de les éduquer à.
Bon, déjà, c'est une manière de s'amuser quand même. T'sais, avant d'éduquer, t'as toujours un peu le.
Non, mais ça, on peut s'amuser en apprenant.
Exactement. Non, c'est enfin, ça, c'est ça le truc. C'est un truc qui me fascine, c'est que et c'est pour ça. Enfin, tout à l'heure, j'ai le système scolaire français, l'espèce de vision qu'on a en France, de même du monde. Tu sais, déjà, on a une sorte d'espèce de vieille morale chrétienne. Il faut que ce soit chiant pour que ce soit bien, tu vois.
Intéressant.
Ouais. Donc en gros, un médicament, il est plus efficace s'il est mauvais. Quand tu te coupes, il vaut mieux mettre de l'alcool à 90 parce que ça pique.
Et les gens sont plus sérieux avec une blouse blanche.
Voilà, exactement. Et donc pour apprendre, il faut que ce soit chiant. En fait, c'est pas vrai du tout. Et effectivement, moi, je joue avec mes enfants pas pour leur apprendre des trucs, mais pour jouer. Mais bien sûr, on prend des jeux qui font réfléchir et on donne le goût de la réflexion, de comprendre ta stratégie, pourquoi est-ce que tu mets telle pièce à tel endroit. Et en fait, tu vois, genre, alors on va faire une petite tangente sur les startups quand même, parce que je peux pas m'empêcher, mais tu sais, dans startup, on parle toujours de traction. Donc, ouais, la boîte, elle a de la traction. Alors tout le monde dit la traction, c'est la croissance. Alors en fait, c'est pas du tout vrai. La croissance, c'est une résultante de la traction. La traction, c'est vraiment exactement ça. C'est en fait, tu as quelque chose qui est tiré par le marché. L'analogie classique, c'est le train en bois. Tu fais un train, on parle d'analogie de jeu, évidemment. Tu prends un train en bois, tu vois, tu le mets sur une table et tu pousses un wagon vers le reste du train. Bah bon, c'est le bordel, tout se fout en l'air. Tu tires le wagon vers toi, même si les wagons étaient un peu mal foutus, ils vont tous se mettre en fait dans le bon sens. La traction, ça marche beaucoup mieux pour aligner les intérêts, les efforts et les volontés que de la pression. Ça marche extrêmement bien avec évidemment des équipes, avec des gens qui bossent dans ton entreprise, avec des enfants. L'éducation en pulsion, si tu veux, de dire il faut que tu fasses ça, fais ton exercice, apprends ta leçon, marche beaucoup moins que l'éducation en traction qui est je vais juste te donner le goût de lire.
La contrainte versus le plaisir. Ouais.
Et tu vois, notre grande, elle adore bouquiner. On l'a mise à Harry Potter, elle a éclaté les 7 Harry Potter, je sais pas, en 3 mois, quoi.
Wow.
Et en fait, ouais, alors du coup, là, ça peut faire le papa qui est trop fier parce que sa fille, elle a lu des bouquins compliqués, mais
du coup, elle se couche trop tard le soir, elle est claquée.
Putain, et voilà, elle est claquée le lendemain, elle nous fait chier. Mais non, au-delà du joke, non, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que. Bah, en fait, même si dans son exercice de grammaire du lendemain elle fait des erreurs, en fait, j'en ai un peu rien à faire parce que je sais que elle aime tellement lire, elle aime tellement passer sur des livres que, je veux dire, in fine, elle saura écrire très bien, elle saura lire très bien, il n'y a pas de problème, tu vois. Et je préfère vraiment lui redonner le goût de la lecture et on lit, tu vois, vraiment depuis qu'ils sont tout petits, les trois, une histoire le soir, la grande moins, elle est toute seule, mais tu vois, depuis le début, on fait ça. Et donc il y a le goût de la lecture, donc la petite de 2 ans tu la retrouves en train de se coller sur le canapé à côté de la grande en se prenant un livre, elle sait pas lire mais elle est à côté, elle fait pareil, enfin tu vois ce goût en fait de cette lecture, d'apprendre, de réfléchir, c'est un truc qui est beaucoup plus puissant que d'essayer d'expliquer à tes enfants que ils auront pas de métier plus tard s'ils bossent pas à l'école, tu vois, c'est objectivement une incentive de merde. Enfin je trouve, ça va. J'ai un avis fort sur la question.
On a quelques questions perso pour toi. Je te propose une autre de Maya. Elle aime bien poser une question. Prends une question perso, on l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour Louis, c'est Maya de France Digital. J'espère que tu vas bien et que Thomas est sympa avec toi.
Parce que d'habitude, c'est moi le pas sympa.
Je vais poser une question. Comment se fait-il qu'un grand enfant comme toi ait décidé de développer des services aussi sérieux que ceux d'Alma ?
J'ai parlé sur elle. Comment ça se fait qu'un grand enfant...
Ah,
comme toi.
Génial. C'est marrant parce que c'est sans trucage. Hein. Ouais. Elle n'est pas à côté, tiens. Je pense, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, ma vision du boulot ou de la vie en général, c'est vraiment d'être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire que, pour le coup, les gens qui bossent avec moi, ils savent que je suis pas vraiment un grand enfant. C'est parfois pas super marrant de, je peux être assez tough, hein, quand même, assez dur, assez, maintenant, en fait, on est sérieux. Donc là, on rigole, on est comme ça. Mais, non, la réalité, c'est que je suis assez extrémiste dans ma manière de bosser perso. Et donc, du coup, ça peut être assez, parfois assez délicat ou assez difficile. Et je pense que le côté grand enfant, il est hyper important. Je trouve qu'il y a rien de plus chiant que les gens qui se prennent au sérieux. Tu sais, le dîner en ville où tu me dis, du coup, tu te parles à quelqu'un, c'est oui, bah, moi, tu comprends, quand je discutais avec Bernard-Henri Lévy de, on s'en fout, quoi. Vraiment, la vie est vraiment trop courte pour se prendre au sérieux. Donc, il faut être sérieux quand tu bosses. T'arriveras jamais à faire quelque chose d'intéressant si t'es pas sérieux dans l'apprentissage. Il y a des trucs, il faut se poser, il faut le faire, tu vois. Et jamais tu atteindras tes objectifs si t'es pas sérieux. Sérieux, c'est se remettre en cause. C'est bosser beaucoup, hein, tu vois. Je bosse quand même pas mal. Et c'est, vraiment être jusqu'au bout de tir sur comment t'apportes le boulot. Et après, il faut être capable aussi de lâcher, de dire maintenant, on arrête de se prendre au sérieux, tu vois. Et en gros, comme je disais tout à l'heure, je me vois pas comme un entrepreneur, comme le CEO. Enfin, oui, je suis CEO d'une boîte d'une S40, mais c'est pas comme ça que je me définis. Et je préfère ne pas trop en parler, tu vois. J'essaye de dans les trucs entre potes et tout. Oui, c'est vrai que j'ai plein d'histoires marrantes à raconter grâce à Alma, mais si on peut parler d'autres choses, hein.
Genre.
Oh, j'en ai plein. Bah, tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, tu vois. Comment est-ce qu'on a eu notre agrément, par exemple. Tout le temps, on a lancé Alma. Ce sur quoi on s'est concentré. J'ai t'as plein de trucs intéressants à raconter, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de pas trop justement parler de tout ça, parce que je pense que ne pas se prendre au sérieux, c'est vraiment une grande qualité.
On a une autre question d'un de tes investisseurs qui avait pas envie de parler boulot non plus. Tu vas nous dire qui c'est. J'espère que tu le reconnaîtras. Je pense que oui.
Vous avez un message.
Salut Louis, j'ai une question un peu personnelle. Alma, c'est pas le succès d'aujourd'hui sans une énorme dose de travail. Toi et Guillaume, vous êtes partis de rien. Je me rappelle de nos discussions à parfois des heures indues, où tu étais toujours 100% disponible. Pas une fois, tu m'as pas rappelé dans les quelques minutes où on avait besoin de se parler. Et en même temps, t'as une vie personnelle qui est formidable, dans laquelle tu prends complètement tout ton rôle de père, où t'avais déjà deux petits enfants préalablement au lancement d'Alma, et puis un petit dernier qui est arrivé en plein pendant le début de la création. Et du coup, une question qui m'a toujours taraudé, c'est comment tu fais ?
Ouais, c'est un peu the big question. Petite dernière, trop mignonne. On m'a fait remarquer hier un apéro Alma que fallait que j'arrête de montrer les photos de mes enfants parce que ouais, ça suffisait.
Comme tous les parents,
exactement, ouais, tu sais,
gaga,
exactement le jeune papa quoi, qui est terrible.
Moi, j'ai remarqué quand même qu'on montre moins les photos des derniers que des premiers.
Ah, et ben écoute, non, faut que t'en parles au mec là-bas. Ils seront pas d'accord. c'est une super question. Je pense que c'est toujours une question de qu'est-ce qui te... Tu sais, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui te rend heureux. Pourquoi tu fais tout ça ? Est-ce que t'es en train de courir vers une destination que tu comprends pas trop et en fait, c'est même pas pourquoi tu cours, ou est-ce que tu sais ce que tu veux ? Et moi, je sais que j'adore résoudre des problèmes complexes, mais pour moi, c'est hyper important de passer du temps avec mes enfants, et quelque part, tu fais pas d'enfants, enfin, je pense, si c'est pour pas t'en occuper. Et donc, j'ai ouais, on a vraiment beaucoup bossé, c'est vrai que Thierry, donc c'est Thierry Vandeval d'Isaïe, un des meilleurs investisseurs de France, parlez de lui. Voilà, comme ça, au moins il a le s'il écoute. Ça demande pas mal de, tu jongles pas mal, c'est-à-dire que effectivement, bah ouais, on se parlait des heures indues aussi parce que je passais du temps avec les enfants avant, nos gens du bureau, je m'occupe, tu vois, on fait le bain, on fait le dîner, on lit l'histoire du soir, puis bon, bah il est 20h30, 21h, tu te remets au boulot, et c'est là où tu commences à attaquer. Je pense que les deux vont ensemble. Je pense qu'il serait faux de dire que tu vois, j'étais alors 100% si très comité Alma, mais bah 100% non, j'ai pas donné toute ma vie et j'aurais pas été prêt à le faire, tu vois. Si tu veux choisir entre la famille Alma, je choisis la famille. J'adore Alma, hein, pas de question, mais je trouve que c'est, tu vois, quelque chose qui est vraiment important pour moi et en plus super unfair. T'imagines tes gamins, t'as pas demandé à venir au monde et t'as un père qu'on a rien à foutre, qui te fait comprendre que t'es pas important. Est-ce que je suis parfait là-dessus? Absolument pas. Et tu vois, genre, je te disais tout à l'heure, ma fille m'a dit il y a quelques jours, j'en ai un peu marre de ta boîte, tu bosses trop, tu travailles trop. Donc je veux dire, je le fais pas parfaitement, et puis parfois il y a eu des moments aussi dans la boîte où tu vois j'étais assez stressé, assez tendu, et où du coup ça se voyait, c'est-à-dire que je m'occupais des enfants mais de manière un peu tendue, donc hop militaire, on va vite se coucher parce que papa il doit bosser. Donc guess what, déjà un, quand tu prends ce mode-là avec les enfants, tout parent te dira ça ne fonctionne pas.
C'est l'inverse de l'attraction.
Exact,
voilà.
C'est l'inverse de l'attraction. Et qu'est-ce qui se passe quand t'essaies de pousser quelqu'un? Il essaye de pousser dans l'autre sens. Donc grosso modo, c'est les moments où les enfants sont plus chiants, ils courent partout, ils hurlent, ils en ont rien à foutre,
et donc tu perds encore plus de temps. Donc... Voilà. T'es encore plus stressé.
T'es stressé. Et moi, il y a eu des soirs, je me rappelle, où tu vois, t'es comme ça, t'as fini par gueuler sur tes enfants, par exemple, tu t'es énervé, puis après, ils se couchent enfin, puis là, t'es face à ton ordinateur et tu te sens super mal, quoi. Tu te dis, ok, donc en gros, rôle de père, je l'ai merdé. Maintenant, je suis en train de bosser, mais je me sens pas bien, donc je vais mal bosser. Donc je foire sur tous les tableaux, et je pense que c'est un vrai combat de tous les jours, de réussir à déconnecter ton cerveau, à vraiment être avec tes gamins. Et je pense que parfois, je le fais très bien, et en tout cas, j'ai inventé de le faire bien et de le faire les week-ends en particulier, je pense que j'y arrive mieux qu'en semaine, pour être honnête. Et puis après, quand tu te remets sur le boulot, d'y aller pour de vrai, d'être capable de hiérarchiser. Mais c'est un vrai taf. Et honnêtement, je connais personne, que ce soit Guillaume, mon associé, qui est dans la même situation. Il a une petite fille, là, il y a 3 semaines. Donc lui, il est dans le jus.
Félicitations, ouais, Guillaume.
Félicitations, Guillaume. Guillaume, il m'énerve parce qu'il fait que des enfants qui sont plus grands que moi dans 2 ans. Donc, j'en ai un peu marre. Mais tu vois le truc, quoi. C'est vraiment une question de discipline. Et ça, d'ailleurs, c'est marrant. C'est une tangente complète. Mais, tu sais, on parle toujours de valeurs d'entreprise. Alors, t'as les valeurs, tu vois, machin truc, excellence. Voilà. Mm. Et il y a une valeur que très peu de monde cite, c'est la discipline. Il y a que une entrepreneur qui, à ma connaissance, l'a cité, qui était Mathilde Collin, la fondatrice de Front, qui avait comme valeur de sa boîte. Je pense que la discipline, c'est vraiment la vertu cardinale, quoi. C'est en fait, tu peux être, tout le monde peut être bon sur un sprint. Tout le monde peut être bon sur une semaine, sur un mois, tu peux être brillant, mais la réalité, c'est que t'es sur un marathon, et que la question, c'est que t'as des mecs qui réussissent parce qu'ils sont genre brillantissimes, mais la plupart des gens qui réussissent, c'est que le mec, il se lève tôt, il se couche tard, il bosse, mais intense entre les deux, et il fait ça pendant 10 ans de suite. Il a la discipline de bosser sur le bon sujet, pas le machin qui te fait kiffer, mais sur le machin qui est impactant, maintenant, dans 1 heure, dans 2 heures, et ça tous les jours, de tous les mois, de toutes les années, de la vie de sa boîte. Et ça, c'est vraiment la qualité cardinale, et ça te permet d'être aussi focus, de pas te retrouver, tu sais, à genre à faire 53 trucs à la fois, de t'occuper de tes enfants, de gérer ta vie. Et j'ai ça comme si j'étais parfait. Encore une fois, je le suis malheureusement pas, mais en tout cas, j'ai la volonté d'essayer.
C'est ce que t'as compris qu'il fallait faire.
Bah en tout cas, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Oui. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je pense que oui. Mais
est-ce que tu arrives? C'est encore voilà. Autre chose. Oui, oui.
Mais je bosse, je me soigne.
Je te propose d'enchaîner un peu. Ce qu'on
mais
est...
Franchement, non, mais ça me fait
on
chier.
On
les, mecs,
bien,
qui te,
là,
les ouais. mecs qui te disent qu'ils vont sacrifier leur vie. Tu vois. Ouais, alors tu as des Elon Musk qui vont créer des trucs extraordinaires, mais les mecs qui t'expliquent en regardant les yeux que de toute façon c'est impossible de créer un truc bien sans y flinguer toute sa vie et tout. Bon, c'est triste.
En tout cas, c'est des renoncements.
Ouais, c'est triste. Ouais. Enfin, ça fait des gens qui sont tristes. Ça fait des personnes. Tu vois, c'est ouais, tu peux vouloir mourir sur scène, mais ça fait des gens qui sont, je trouve, un peu creux.
Oui, mais enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'ils le vivent eux. Et
mais d'ailleurs, ils font ce qu'ils veulent, hein, je m'en fous.
Non, bien de dire. Tu trouves ça triste, ils le sont peut-être pas eux, ouais, effectivement.
Voilà. Non, mais oui, c'est ça, c'est moi, je trouve ça triste.
Mais oui, on en parle en fin de vie. Hein.
Moi, je me suis souvent dit ça, par exemple, du coup, je m'évade un peu philosophiquement, mais dans d'autres métiers qui sont des métiers de passion, comme par exemple un chanteur, enfin, mettons un artiste ou un sportif, pour pouvoir gagner, ça n'a pas vraiment de sens d'être sportif professionnel si c'est pas pour gagner, donc c'est compétitif, bah, les sacrifices à faire sont considérables, puisque c'est hyper technique. Gagner la seconde supplémentaire aux 400 mètres, ça veut dire du régime, des diététiques, des salles de sport, des machins, se coucher à telle heure, des machins,
voilà,
etc.
Tout à fait.
Discipline.
Donc, oui, donc ça fait vraiment.
Justement.
Ouais. Tu vois. Mais avec certains renoncements, effectivement, oui.
Ouais, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Et après, on aime tous, en plus, on aime bien les gens hors normes. On aime en parler. Tu vois, Elon Musk, je dis en rigolant, le mec, il doit être triste. Et en même temps, le mec, il nous fait rêver parce que, moi, je serais pas capable de monter SpaceX, tu vois. Donc, le mec, il t'envoie des fusées, il réinvente une industrie complète qui était complètement sclérosée. Il va t'envoyer des mecs sur Mars.
Il a commencé avec des Lego techniques. Hein.
Oui, mais il a raison. Ça, pour le coup, ce sera pas dur de me faire la pub des Lego.
Si mais moi, ça me dirait bien qu'on puisse acheter une fusée en payant 3 fois, peut-être.
Écoute, on est en cours de négociation du contrat.
Aller dans l'espace qui coûte un peu cher, le tourisme social payant 3 fois, voilà. C'est déjà plus abordable.
Parce que ça, ce serait beau.
S'inspirer. Respirer.
Je propose un petit sprint dans le marathon de cette interview.
C'est qui le mec qui fait la voix là? C'est extraordinaire. On dirait le.
Ferdi. Ah.
Ferdi. Ferdinand, qu'on salue.
Une voix grave comme ça, tu vois, t'es dedans.
Ah non, on l'a casté. Hein, c'est du travail aussi, hein, produire un podcast.
Gros casting. Hein, gros casting. Bon, l'idée, le titre porte bien son nom, hein, c'est d'aller chercher. Alors, on a quand même eu pas mal de clés, donc on va peut-être aller assez vite quand même sur cette partie, mais on va chercher ce qui t'inspire, comment tu respires. Donc, sur les moments de respiration, je pense qu'on a assez bien compris. Sur l'inspiration, peut-être on peut encore un peu creuser.
Ouais, carrément, Enfin, je vais faire un peu de redite, mais tu vois, ce qui m'inspire, c'est les gens qui m'apprennent des choses. Et donc, ça peut vraiment être tout. Ça peut être peut-être un truc qui est important que j'ai pas mentionné, c'est la notion de multidimensionnalité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vois, tu peux t'es au fond de la mine, tu creuses dans ta dimension qui peut être je suis entrepreneur, je suis codeur, je suis ce que tu veux. Et en fait, tu vois, il y a de moins en moins de valeur à atteindre le niveau du dessus. Par rapport avec le même niveau d'effort à juste développer une compétence dans quelque chose qui n'a rien à voir, tu vois. Et donc du coup, c'est enfin, t'es codeur, fais des sales. va essayer de vendre un peu le produit que tu crées. C'est intéressant. C'est intéressant. Tu te rends compte déjà que sales, c'est pas un métier facile, alors que c'est bon, le produit il est top, il se vend tout seul. Évidemment, c'est bizarre ça. T'es sales, tu gueules sur les codeurs parce que le produit il est jamais livré à temps et que la prod a encore tombé en rade.
Déjà, va comprendre le code.
Apprends à coder. Et puis, tu vois, donc, et je pense que le truc qui, moi, m'inspire, c'est vraiment d'aller. Je passe beaucoup de temps à le lire.
Et parenthèse, mais vous faites des expériences comme ça chez Alma?
Comment?
Vous faites des expériences comme ça chez Alma, de proposer aux codeurs justement d'aller.
Ouais, on en fait un peu, on le fait pas assez, on le fait un petit peu. On devrait le faire plus aussi. Vive ma vie, juste de. Tu vois, je suis au support client, je parlais avec les clients toute la journée. Et ben, ton produit, tu vas voir comment est-ce qu'il est utilisé, tu vas parler aux gens qui l'utilisent, je pense que c'est intéressant. On le fait au niveau de l'onboarding et on devrait, à mon avis, le faire un peu plus que ça.
Là, l'intérêt de ce type de. Ouais, d'essais, c'est que eux se comprennent mieux entre eux et donc sont peut-être plus dans leur approche, dans leurs attentes.
Tu crées l'empathie.
Ouais,
bien sûr.
Et au-delà de ça, est-ce que t'as des skills comme ça, des talents qui se révèlent?
Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que oui ou non, tu vois, est-ce que tu vas transformer un commercial en super codeur? Peut-être pas, t'en sais rien. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que ça le rendra meilleur commercial. Tu vois, c'est en fait ce qui apporte beaucoup de valeur, c'est t'essayes de créer à mort, tu vois, de l'expertise. Mais en fait, les plus belles idées, c'est en fait tu prends une idée dans un domaine et tu l'appliques à un domaine qui n'a absolument rien à voir. Et boum, t'inventes une nouvelle idée, tu vois.
D'où l'important d'aller visiter de nouvelles dimensions.
Donc par exemple, alors voilà, les nouvelles dimensions. Les algorithmes de recuit simulé. Parlons de ça. Tu vois, pourquoi ne
pas répéter?
Algorithmes de recuit simulé, simulated annealing. Tu vois, pourquoi ça n'en parlerait pas aujourd'hui? C'est des algos, en gros, j'ai fait courte, mais c'est des algorithmes qui te permettent de trouver un optimal. Et en gros, c'est basé sur la physique statistique. Donc, c'est en fait des informaticiens qui ont regardé la physique statistique, la physique des gaz, et qui ont dit, tiens, effectivement, un gaz que tu cuis, que tu refroidis, que tu recuis, que tu refroidis, te permet d'atteindre un certain état qui ressemble à un état d'optimum global que tu vas rechercher au niveau de ton au niveau de l'obtention d'une fonction mathématique ou de code, tu vois.
C'est donc, ce qui fait que quand je recuisine ma ratatouille, elle est meilleure.
Elle est meilleure. Alors, ouais, c'est alors, faut dire, j'adore la cuisine pour le coup. La cuisine, c'est de la chimie. Intrinsèquement, la cuisine, c'est juste de la chimie qui se bouffe.
Moi, je suis allé chercher dans une autre dimension. Ouais. Enfin, si on avait alors, une valeur universelle.
Je passe beaucoup de temps à faire de la cuisine. Ouais. Je sais pas si ça m'a appris à coder, mais tu vois. Et donc le méta-point que je veux faire, c'est qu'il y a beaucoup de cas dans ta vie où le fait de t'intéresser à des idées qui peut-être en apparence n'ont rien à voir, la serendipity est importante. Nous, chez Alma, il y a un truc qu'on fait pour le coup, c'est qu'on crée un truc qu'on appelle les fireside chats, parce qu'on est très descriptif, qui sont en fait, on invite des gens qui viennent parler de leur métier, donc je les interroge, je leur pose quelques questions devant toute la team, et ça peut être des gens qui sont vraiment dans des métiers très proches, tu vois, genre, il n'y a pas longtemps, on a invité les GM Europe de Lime et de GoPuff, tu vois, donc ils vont parler de go-to-market. Donc là, évidemment, t'es vraiment sur du business. Mais j'avais fait venir à une époque un pote qui était au Conseil d'État. Ce qui n'a rien à voir, tu vois. Et peut-être que c'est pas actionnable, mais juste ça t'expose, ça touche, quoi. T'expose à un mec qui pense pas comme toi. Et ça te rend forcément meilleur sur le reste.
On a fait une grosse tangente au moment où t'allais parler de lecture.
Oui, lecture, c'est ce que j'utilise beaucoup pour accéder à cette information. Beaucoup, je fais gaffe, j'ai pas les news comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai quand même quelques newsletters, quelques blogs que je vais suivre plus ou moins ardemment. Je lis beaucoup de livres.
Est-ce qu'il y a des blogs que tu conseilles ou des lectures que tu conseilles?
Dans les blogs, il y en a un qui est extra, dans les newsletters, parce que les blogs, c'est saut 2010. C'est Substack.
Je suis pas mon MySpace.
Ouais, alors j'allais dire, tu rigoles, je dis ça comme si j'étais le mec cool, c'est alors que genre j'ai aucun réseau social et c'est une horreur absolue, mais il y a une newsletter qui s'appelle The Diff, Diff, D-I-F-F, écrite par un mec qui s'appelle Bernd Hobart, et ce mec, en fait, c'est un analyste financier, donc il bossait dans je sais plus quelle grande banque américaine. Tu te dis, bah oula, c'est un peu loin de la tech, et je pense qu'il n'y a pas une newsletter que je lis qui a un tel condensé d'informations et de compréhension du monde. Le mec est hyper smart. Et il va te parler vraiment de tout et n'importe quoi. Il va te faire un truc sur les airlines, en t'expliquant qu'en fait, les airlines, essentiellement, c'est la partie vol des compagnies aériennes. Ce n'est qu'un programme de lead generation pour leur carte de fidélité. Enfin, tu vois, il t'explique le truc et tu es juste... Putain, tu comprends mieux le monde, quoi. The Diff, alors c'est payant, c'est 20 balles par mois. Il y a la version gratuite avec avec une newsletter par semaine. C'est vraiment extraordinaire. Ça rend intelligent.
C'est la preuve qu'on est prêt encore aujourd'hui à
payer pour du contenu. Bien sûr. Et le contenu gratuit.
À condition de qualité. Ouais.
Donc The Diff est très bon. Not Boring, il est pas mal, il est très connu. Il est pas mal, mais parfois il est un tout petit peu dans le voilà. Il met un peu d'eau dans sa ratatouille. Donc il pourrait être ses moins de mots. The Diff, là où il est bon, c'est vraiment il pourrait pas être ses moins de mots quoi. Tu vois, il a condensé l'information. Benedict Evans, il est très bon. Bon, ça c'est un grand classique. Je pense que tout le monde est abonné. Ouais, déjà c'est déjà pas mal. Après, je peux conseiller des livres. Ça, j'en ai des palanqués.
Allez.
Bah, en livre business, il y en a un qui est extraordinaire, c'est The Box. Déjà parce qu'il s'appelle The Box, donc t'es obligé de l'acheter. C'est quand même top. The Box, c'est l'histoire du conteneur. Tu sais, le conteneur, le shipping conteneur, le truc que t'as sur les camions, puis sur les bateaux. Parce qu'on parle toujours de disruption. Tu sais, oui, machin, il y a Notion qui a disrupté, puis après, il y a Slack qui a disrupté. Bon, ok, d'accord. Maintenant, on va regarder une des plus grandes disruptions qui a jamais eu lieu, c'est la disruption du transport. C'est comment est-ce qu'on a remplacé ce qu'on appelle le bulk shipping, c'est-à-dire le transport, tu sais, de marchandises, où ils mettaient tout ça en bordel sur un bateau, et quand on l'a rendu excessivement efficient. Et ça, c'est le conteneur. Et la révolution du conteneur, c'est une révolution qui a mis 30 ans à arriver, entre le mec qui a commencé à se dire, mais en fait, on va créer un truc, ça va être le conteneur, c'est un multimodal, on foutra sur des bateaux, après on mettra sur des trains, après on mettra sur des camions, du coup, on arrêtera de se faire chier à mettre un mois et demi à tout
à passer de l'un
bateau.
À l'autre. Ouais, tu ouais.
Vois, ça t'explique pourquoi New York n'est plus un port de marchandises, alors que c'était le plus grand port de marchandises du monde à une époque, et que c'est devenu Newark, parce qu'en fait, les dockers du port de New York, ils se disent, on est contre le conteneur, ça tue des emplois, ce qui était vrai. Du coup, on veut le conteneur, mais il ne faut pas tuer d'emploi. Donc les mecs ont dit bah, très bien, du coup on va créer un port sur la rive d'en face de l'Hudson River. Et puis là, c'est nous qui dictons. Tu vois, ça, c'est un bouquin sur la disruption extraordinaire parce que tu as cette histoire, c'est un machin. Tu te dis, c'est pas sexy le conteneur, quoi, c'est une boîte de métal. Et putain, qu'est-ce que c'est intelligent, qu'est-ce que les mecs ont pensé, ils se sont battus. Enfin, voilà, histoire extraordinaire. Moi, je l'ai lu quasiment d'une traite. Et peut-être sur les bouquins de fiction.
Ils vendent bien les choses pas sexy. Hein.
Ouais, c'est vrai que
j'adore. C'est comme ouais, je vais pas en trois fois.
J'ai envie de lire un livre sur les conteneurs, moi. Tu vois. Maintenant, c'est.
Je pensais qu'on allait s'ennuyer sur le paiement matin, fractionné pendant deux heures et depuis tout à l'heure, c'est un bonheur.
C'est cool. voilà. Et peut-être un. Alors, je dis beaucoup de SF. La SF, c'est assez génial parce que, alors, je parle de. La SF, t'as des guerres de religion terribles sur qu'est-ce que c'est de la vraie SF. Ce que j'aime dans la SF, c'est plutôt pas les romans d'anticipation du genre, dans 100 ans, on aura les voitures qui volent, mais c'est, imaginons un
monde avec d'autres règles.
Ouais, un monde avec d'autres règles. Il y a un truc qui se passe et on va juste le tirer à fond, essayer de comprendre ce truc-là. T'as toujours un peu l'esprit un peu ingénieur, quoi.
Et avec tous les mécanismes. Voilà.
Et là, qui est ton auteur fétiche? Et
alors, j'en ai plein. T'as un chinois, Sixin Liu, qui a écrit Le problème à trois corps. Alors ça, c'est juste.
Ouais, j'ai commencé juste cet été, là.
Ah, c'est une tuerie. Ouais. Et tu vas voir, t'es à quel tome?
Bon, ben, le premier point.
Oui. Ah, tu vas voir, c'est juste, si tu penses que c'est taré, tu vois, c'est juste de pire en pire, quoi. À la fin, ça part en plus complexe. Ouais,
mais c'est le best-seller chinois, là.
Niveau d'intelligence incroyable. Isaac Asimov, il est quand même très bon sur certains sujets. Tu vois, tout ce qui est fondation, c'est quand même très strong. Je suis obligé de citer Dune. Tiens, c'est le grand classique, mais putain, Dune, pareil, dans la catégorie où t'as pas un mot que tu pourrais enlever, t'as la densité d'informations. Mais un qui est peut-être un peu moins connu, c'est que je lis en ce moment, c'est Adrian Tchaïkovski, qui a écrit Children of Time, Les Enfants du Temps. Et l'histoire, elle est assez fabuleuse parce qu'en gros, c'est des êtres humains qui ont un peu niqué leur planète. Alors, aucune coïncidence, toute rapport avec le monde actuel serait purement fortuite. Et du coup, ils se sont barrés, ils ont commencé à ensemencer d'autres planètes, à les terraformer pour créer des d'autres, enfin pour les rendre hospitalières pour la race humaine. Et ils se sont plantés sur une planète. Ils ont en fait créé un virus qui fait muter extrêmement rapidement les espèces pour les faire évoluer et les rendre plus intelligentes. Et le virus, il marche sur des araignées. Donc les mecs qui reviennent, tu vois, t'as des humains qui reviennent dans leur vaisseau au bout de 2000 ans, ils ont des araignées géantes hyper intelligentes. Et là tu dis bon ok, ça va être un truc de fight, mais en fait pas du tout. C'est l'idée de à quoi ressemble un clash de culture entre deux civilisations qui sont incapables de se comprendre, parce que en fait les araignées elles parlent pas, elles ont pas de cordes vocales, donc elles parlent en bougeant leur mandibule, et donc les humains peuvent pas comprendre. Donc les humains disent bah ce sont juste des bêtes féroces, tu vois, et les araignées elles sont pareilles, mais pourquoi est-ce que le mec il bouge sa bouche, les araignées n'ont pas d'oreilles, elles entendent pas, elles disent cette bête ne peut pas être intelligente, tu vois. Et donc comment est-ce que ces deux espèces vont s'appréhender, passer l'une à côté de l'autre, commencer à se foutre sur la gueule, est-ce qu'ils vont finir par s'entendre, tu vois, avec le mec à rechercher, si tu veux, le mec est un expert des araignées, et donc tu deviens toi aussi un expert de l'espèce Portia labiata, qui est l'araignée sauteuse australienne, qui est la base de ce truc. Enfin, tu vois, c'est marrant, quoi. Là, t'apprends, je sais pas si savoir des
trucs
sur
la planète des singes revisités dans le monde.
Ouais, voilà. C'est le même. En tout cas, c'est le même genre d'anticipation. Ouais.
En tout cas, les grands auteurs te disent tous qu'ils vont puiser énormément d'informations, de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils notent tout, ils comprennent tout pour parfois utiliser que 1% de.
Il faut, voilà, parce qu'il faut comprendre. Neil Stephenson avec Seven Eves, t'as pareil. C'est un truc où genre t'apprends plus sur la mécanique newtonienne avec en lisant Seven Eves qu'en allant sur Wikipédia, quoi. C'est extraordinaire.
Et est-ce que tu apprécies Philippe K. Dick ou pas?
Ouais, alors ça j'adore. Évidemment, Philippe K. Dick, il est sacrément barré quand même. En fait, c'est assez hétérogène parce qu'il y a suivant la quantité de drogue qu'il prend quand il écrit, t'as des trucs qui sont vraiment genre impossibles à suivre. C'est genre le bordel. Et là, c'est juste du génie, quoi. Ubik, honnêtement, ça te met bien mal. Enfin, c'est ça envoie du lourd.
Ouais. Je suis fan de SF aussi. On peut en parler longtemps.
On va attaquer là.
Je vous propose tout de suite. Première fois, ça rebondit sur ce que tu nous disais tout à l'heure, première fois où tu as trop ouvert ta bouche, cette volonté de transparence.
En CE1, donc j'avais 7 ans, et je m'entendais pas du tout avec ma prof, elle s'appelait Madame Aschenbaum, ça, si elle nous écoute, elle saura que j'aime toujours pas, qui était vraiment une vieille peau pour le coup, et si un moment je pète un câble, alors j'ai pas ouvert ma bouche, mais j'avais un plâtre sur le bras et genre, je l'ai menacé, donc j'ai fait comme ça, et donc je me fais virer 3 jours en CE1, tu vois, 7 ans, c'est quand même hardcore, parce qu'elle pensait que j'ai fait un doigt d'honneur, alors que pas du tout, j'avais juste menacé de la frapper, c'est beaucoup plus soft.
Première fois où tu as pris un crédit, perso?
Ça c'est facile, c'est assez comme mère régulière, un mortgage. On a acheté un appartement à Versailles à la naissance de notre deuxième enfant, et j'ai donc été prendre un crédit chez Boursorama. Allez, pub gratos.
Et l'expérience client n'était pas à la hauteur, du coup j'ai créé Alma.
Du coup j'ai créé. Sur le mortgage, c'était plutôt pas trop mauvais.
Premier coup de culot.
J'étais un peu obsessionné des études quand j'étais petit, comme quoi pour un mec qui dit que le système scolaire il est un peu daubé, j'étais pas 100% cohérent, je voulais absolument faire Polytechnique. Depuis que j'avais 11 ans, on m'a expliqué que c'était la meilleure école d'ingénieur en France, j'ai entendu meilleur ingénieur France, et j'ai dit ok, donc c'est là que je vais aller. J'étais un peu obsessionnel, je me suis dit, il faut, pour aller dans la bonne école, il faut la bonne prépa, dans la bonne prépa, dans le bon lycée, dont j'avais le bon lycée, et j'étais sectorisé dans un lycée à Saint-Cloud, qui est absolument respectable, mais que je ne voyais pas comme le meilleur lycée. Et donc j'ai écrit un courrier au proviseur de Louis Legrand en y joignant mes bulletins de notes en disant le courrier, je l'ai retrouvé récemment, je l'ai lu, c'est nul, c'est mal écrit, c'est mal écrit parce que j'ai écrit mal, c'est moche, c'est lourd, les tournures de phrases sont dégueu, mais j'ai été accepté. Je suis pas allé, j'étais à Hoche finalement, mais le mec m'a réécrit, je veux venir dans votre lycée.
Premier renoncement.
Premier renoncement, j'ai renoncé plein de trucs. Renoncement un peu où tu te dis merde, j'ai quand même merdé. C'est peut-être le conseil quand même, dans le sens où quelque part, je pense que j'étais pas fait pour ça. C'est assez clair, mais quelque part quand même, tu vois, comme toujours, quoi, quand t'es pas bon dans un truc, ça te fait chier. Et vraiment, j'étais vraiment très très bon sur certains aspects du conseil. J'étais vraiment très très mauvais dans d'autres. Et au global, ça passait pas. Et c'est moi qui ai démissionné. Mais honnêtement, si j'ai pas démissionné, il m'aurait viré quelques mois plus tard. Donc j'ai renoncé en comprenant que j'y arrivais pas et que j'étais pas fait pour ça.
Première fois que tu as recruté quelqu'un.
La première fois que j'ai recruté quelqu'un, alors ce qui est assez marrant, c'est que avant Alma, j'ai jamais été manager, j'ai été mentor ou dotted line manager, mais la première fois que j'ai managé quelqu'un, c'était chez Alma. Donc si tu parles de recruter quelqu'un, vraiment en mode recrutement de quelqu'un qui bossait dans tes équipes, c'était il y a 4 ans et demi, j'ai recruté nos premiers employés chez Alma qui sont des développeurs, et j'y connaissais rien. Donc t'imagines, t'as quand même quasiment 10 ans d'expérience professionnelle, t'as jamais recruté quelqu'un, t'as jamais été manager, parce que j'ai une carrière où j'ai un peu touché à tout, tu vois, j'étais à droite à gauche. Et donc j'y connaissais rien, et donc j'ai dû me calibrer, et j'ai fait passer plus de 60 candidats en entretien physique pour en embaucher 2.
Sélectif.
Première connerie.
Non, pas sélectif, c'est juste que j'y connaissais rien. Donc en fait, j'étais en mode, déjà les 20 premiers, j'étais en mode, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que mon exercice de code il est bon? Est-ce qu'il est trop facile? Est-ce qu'il est trop dur? Est-ce que le mec me bullshit? Comment est-ce que je fais pour le savoir? C'est flippant en fait. Hein. Puis t'es tout seul. Parce que dans une boîte, tu vois, t'es chez Stripe, si tu te plantes, t'apprends en le faisant, tu dis un truc, t'es avec les autres, etc. Là, j'étais tout seul à prendre la décision.
C'est un vrai risque, un recrutement en éclair.
Bah ouais, et surtout quand t'as personne pour t'expliquer que t'es pas bon.
Premier grosse erreur d'entrepreneur.
première grosse erreur d'entrepreneur, je prends un rigolant, la première boîte que j'ai créée qui s'appelait tldr.io, ça se, on n'était pas des génies du marketing.
TLDR,
Too Long Didn't Read, une boîte de résumé. On voulait résumer Internet, on voulait créer le Wikipédia du résumé, c'est-à-dire que pour chaque URL dans le monde, tu avais un résumé pour ça. Et tu pourrais dire, je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais en fait, bon, rétrospectivement, c'était une boîte un peu con, enfin con, dans le sens où ça pouvait pas marcher pour pas mal de raisons, et je pourrais dire la première erreur d'entrepreneur, c'est de créer cette boîte sans vraiment réfléchir, quoi. C'était vraiment le coup de tête. On est parti dedans, et en fait, si on avait réfléchi un tout petit peu, je pense qu'on serait rendu compte que l'idée était pas si bien. Ouais, ça peut être une erreur. J'en ai fait plein d'autres, hein. Je peux tenir très longtemps sur les erreurs, j'en ai fait des millions. Mm-hmm.
On fera un épisode spécial erreur. Ouais.
On va faire un podcast.
Si tu acceptes d'en venir.
Tu rigoles, mais tu sais, t'avais un truc qui s'appelait la Failcon il y a une époque.
Oui, ouais, tout à fait.
Et la Failcon, mais la Failcon, grosso modo, c'était quand même des mecs qui étaient des mecs hyper successful. Tu vois, t'avais à l'époque, il y avait Rudel qui était en train de t'expliquer qu'il avait quand même vachement raté sa vie. Tu sais, mec, t'es CEO de Criteo, t'es le fou de ma gueule ou quoi. Donc, la Failcon, c'était pas mal, mais quand même.
Un peu hypocrite.
On était un peu quand même dans le fail inspirationnel, quoi, qui est pas un vrai fail. Moi, je te parle de vraie grosse merde.
Ouais.
Allez, bah du coup, non, une autre grosse merde, tant qu'on est...
Une vraie grosse merde.
On a la rubrique de la claque, quand même.
Wow. Allez, grosse claque.
C'est important parce que là, tu viens de parler des erreurs, mais c'est vrai que, comme tu le disais sur la Failcon, la conférence du fail, très souvent, on veut valoriser l'échec, mais parfois, c'est un petit peu hypocrite. Et parfois aussi, c'est mal digéré en France, alors qu'on peut considérer que le succès est une route pavée d'échecs. Et donc, on aime bien quand les entrepreneurs qui sont en phase de succès reconnaissent honnêtement, que ça peut être dans la vie perso ou privée, mais le fait d'avoir reçu une vraie claque.
Ouais, je pense que plein des claques, tu vois. Et ouais, tu as dit le tu sais, il y a une manière très très facile de jamais se planter, c'est de jamais essayer. Donc le corollaire est assez clair. Peut-être dans la vie dans la vie perso, je pense qu'à un moment, si tu veux, tu vois, on avait une discussion un peu difficile avec ma femme sur Alma, quoi, qui était tu vois, je
qui est Alma?
C'est le prénom de sa fille. Ouais. Il y a une confusion.
Sache qu'un de nos premiers marchands m'avait répondu, je sais mail dont je me souviens, qui était, tu tombes bien, ma fille s'appelle Alma. Et c'est
j'en connais aussi.
C'était le CEO de Bonsoir, tu sais, la boîte qui fait des draps. Donc ouais, c'est un peu la claque où tu te dis, en fait, t'es dans le projet, t'es à fond, t'as l'impression, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, t'as l'impression que t'arrives à équilibrer vie pro, vie perso. Puis en fait, t'y arrives pas. Puis à un moment, t'as la femme qui me dit juste, tu te rends compte que t'es de mauvaise humeur depuis 6 mois. Et je suis en mode, en fait, je dis, mais non, mais je suis de bonne humeur, bah, tout va bien. Et en fait, non, tu mens, tu dis, prends un step back, tu dis, non, elle a raison, en fait, je suis de mauvaise humeur, et honnêtement, ça me ferait grave chier de vivre à côté d'un mec et de ce niveau d'humeur tout le temps. Et ouais, c'est un combat.
Et là, c'est du coup,
c'est une remise en cause, quand tu te dis.
Il y a des décisions radicales du coup qui sont prises.
Ah ouais. Ouais. Ah bah tu dis, faut bosser différemment. Enfin, tu sais, tu dis surtout. Je pense que le côté claque, c'est pas juste la discussion difficile. C'est le delta entre toi, tu pensais que ça allait bien et qu'en fait, tu te comportais comme il fallait. Et en fait, du point de vue monde extérieur, t'étais un peu un connard.
T'es un miroir, quoi.
Ouais. Mais ouais. Tu vois, et tu te dis, putain, en fait, ça a duré longtemps ce truc. Et ça, je pense que c'est un vrai. C'est une vraie claque. Tu te dis, ça se trouve, le mec, il est pas aussi bon que ce qu'il pensait, quoi. Et au niveau professionnel, dans la catégorie claque, c'est, en fait, toujours, c'est un peu ça. Je pense qu'une claque, c'est quand t'as un disconnect entre ta perception de la réalité et le moment où tu comprends que les deux, c'est pas du tout la même chose. Et chez Alma, il y a eu beaucoup de moments où je me disais, ben voilà, c'est bon, là, enfin, tout va bien, tout va. Et en fait, t'as un mec à bord, tu sais que ça fait 3 mois que cette équipe, elle va très mal et qu'il y a beaucoup de stress, que les mecs, ils vont pas bien, qu'ils bossent trop. Et toi, t'as l'impression que tout allait bien, t'es sur ton petit nuage. En fait, les mecs, ils te le disent pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont t'emmerder, que tu vois. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois chez Alma. Et où tu te dis, et tu te remets en cause, tu te dis, attends, je suis quand même là pour diriger cette boîte. Comment ça se fait que je l'ai pas vu, ce truc?
Je laissais volontairement le.
Je vois ça. Ouais,
tu as créé un peu du drame.
On a fait une baston de regard.
Pour graver l'instant.
On a fait une baston de regard.
Et c'est moi qui ai baissé les yeux. Tant pis pour le mal alpha.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Donc là, c'est une référence au café carte noire ou pas le...
Ouais, ouais, aussi. Un petit peu, ouais.
Avec la voix, oui. Bah, donc la carte blanche, on t'avait expliqué hein, la règle du jeu, mais donc on ne t'interrompt pas. Et donc tu peux avoir un sujet de ton choix qui peut être dans ton environnement.
C'est super, il... je ne peux pas m'interrompre.
Il ne faut pas que ce soit trop long.
Tu ne l'avais pas choisi.
Tu perds l'audience. Tu perds l'audience.
Il n'avait pas choisi.
Ah, si, tu avais parlé du sujet de régulation.
Ouais, de régulation. Du coup, je redeviens un peu chiant et technique, mais je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant, c'est la notion d'incitation perverse. Donc c'est, en fait, ou de conséquences inattendues. C'est-à-dire que c'est assez rare les gens qui se disent je vais prendre le monde et je vais juste le niquer quoi, juste faire un truc qui est pas bien. Donc l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et en fait, ce qui se passe pour de vrai quand t'as un système quel qu'il soit la réglementation ou autre qui est pas bien foutu, c'est souvent des gens qui étaient très bien intentionnés, mais soit qui ont vu qu'une partie du problème, soit qui ont surréagi, qui ont été dans l'émotion, si tu veux. Quelle que soit la cause, tu te retrouves aujourd'hui avec des systèmes et c'est parfaitement naturel. Qui juste ne fonctionne plus. Et la réglementation, c'est une très très bonne idée. Très très bon exemple, je veux dire, de l'enfer et pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que je prends l'exemple de GDPR. Donc GDPR, hein, la loi sur la protection des données privées, ça part d'une très très bonne intention qui est de dire, en fait, les données privées qui te concernent, eh ben, c'est tes données, c'est pas les données des personnes qui les stockent. Les boîtes, notamment les boîtes américaines, considèrent que, en gros, si je stocke une donnée, c'est ma donnée. En Europe, on considère que c'est pas ça. C'est la donnée de ton client. Il a des droits dessus. Il a des droits de rectification, des droits de suppression, etc., etc. Donc là, quand tu dis comme ça, c'est une super bonne idée. Le problème de la réglementation, c'est que derrière, t'as les mecs qui se mettent dans un bureau, quand ça te crée des règles hyper compliquées, parce que quand tu commences à vouloir décrire le comportement que tu attends des boîtes, là, ça devient très compliqué. On te pond donc le GDPR, qui encore une fois a beaucoup de qualités, mais qui est très lourd. Ça, je pense que c'est assez consensuel de dire ça. C'est la compliance GDPR, c'est un truc qui est assez lourd. Nous, on y passe quand même pas mal de cycles hein, chez Alma. Et en fait, le problème, c'est que la conséquence inattendue que tu as de ce truc-là, c'est que tu crées quelque chose qui est très très dur. Pour les petites boîtes, parce qu'en fait ton coût c'est un coût fixe, et en fait quand t'es une boîte de 10, tu peux pas être compliant GDPR. Donc soit tu l'es pas et tu prends un risque juridique, soit tu l'es et en fait ça te coûte hyper cher. Là où Facebook et Google, eux pour eux, bah ils disent bon très bien, bah, j'ai embauché 200 personnes pour faire ça, puis ils vont faire le truc. Donc la réglementation a toujours un effet pervers qui est qu'elle renforce les grands au détriment des petits. Le coût d'opportunité que tu payes quand tu surrégules, c'est un coût d'opportunité d'innovation, de création et de simplement, c'est même pas que des boîtes vont mourir, il y a des boîtes qui vont mourir, mais surtout tu ne crées pas des boîtes. Et ça c'est pervers parce que, et c'est vrai dans la réglementation financière, c'est que, évidemment, ce que tu payes quand tu régules pas assez, c'est très clair. Quand tu régules pas assez le monde financier, ta crise de 2008, quand les ratios solvables sont trop bas, quand tu demandes pas aux banques de faire gaffe, quand tu mélanges un peu la banque de détail et la banque d'investissement, c'est assez visible. Par contre, ce que tu ne vois pas, c'est quand tu as trop régulé, quand tes ratios solvables sont trop hauts, quand tu as trop essayé de segmenter, tu ne vois pas toutes les entreprises qui ne sont pas créées. Quand tu vois, Alma pourrait ne pas avoir été créée si la réglementation avait été encore plus dure qu'elle n'est déjà en France au niveau financier. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très bizarre et qui est paradoxal parce que du coup, moi j'insiste toujours beaucoup chez Alma sur le côté, il faut toujours être précis et mesuré. Et donc, faut pas dire la réglementation, ça sert à rien. Évidemment, il faut des règles. L'anarchie, ça fonctionne
de
pas.
De la nuance.
Il faut de la nuance.
On aime bien.
Exactement. T'avais dit que tu m'interrompais pas.
Ah oui, c'est vrai. C'est Olivier qui l'a dit. Hein.
Je vois.
Ça n'engage pas.
Maya a dit que j'étais pas toujours sympa.
Je vois ça. Mais exactement ça, tu vois, c'est en fait ce truc de se dire, il faut pas rentrer dans le, il faut jamais réguler, un peu à l'américaine parfois. Mais par contre, parfois on te fait un procès quand tu dis, faut faire gaffe parce que tu comprends, j'ai des pairs, parfois ça va trop loin. Tu te fais accuser de le mec, il a rien à foutre des données des clients. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il faut de la mesure, il faut comprendre cette mesure. Et je t'en donne un autre exemple que je trouve très intéressant parce qu'il est évidemment dans le monde du crédit, c'est un truc qu'on vit, c'est que dans la catégorie de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Faut comprendre que le monde du crédit, c'est un monde qui est soumis à une sorte d'injonction contradictoire, qui est qu'en fait on demande aux boîtes de crédit et de BNPL essentiellement une inclusion bancaire maximale, tout le monde doit avoir accès au crédit, un surendettement minimal, il faut jamais prêter de l'argent à quelqu'un qui ne devrait pas en emprunter, et le tout sans regarder les données privées, parce que quand même c'est les données privées.
Et dans le tout le monde doit avoir accès au crédit, il y en a qui potentiellement ont des problématiques de surendettement.
Exactement, voilà. C'est ça. Et donc du coup, en fait, tu ne peux pas avoir ces trois trucs. C'est pas possible. Si tu veux avoir une inclusion bancaire maximale et ne pas surendetter les gens, tu dois avoir un monceau de données sur eux. Ok ? Faut que les mecs partagent leur compte en banque et tout. Ça ne marche pas. Si tu veux, tu peux avoir effectivement pas de surendettement et très peu de données privées. Dans ce cas-là, ton taux d'acceptation, c'est-à-dire en gros ton inclusion bancaire, il sera désastreux. Ça, grosso modo, ce que je viens de décrire, c'est by and large la situation du crédit. crédit en France encore aujourd'hui, c'était chauffeur Uber. Bon courage pour prendre un crédit chez CTLM. J'ai rien contre CTLM, ils font un super boulot, mais le problème, c'est que c'est très compliqué parce que comme tu peux pas demander facilement des données à ce chauffeur Uber, il peut pas te partager 2 ans d'historique bancaire où tu vois bien que le mec, ça fait 2 ans qu'il touche un salaire qui est en moyenne, tout ça, qui est en ses crédits. Donc
il part du principe que voilà. C'est peut-être un boulot
oui, donc tu prends, tu veux pas prendre de risque et voilà. Tu prêtes pas, tu vois. Et donc cette injonction contradictoire, elle est vraiment la résultante d'attente en fait de la société qui a pas encore peut-être la nuance, la mesure, la précision de se dire en fait ça va pas ensemble ou alors en tout cas c'est un trade-off arbitré.
Olivier, habituellement fini par le Sista, mais il a promis une version piquante de son mois président.
Pas piquante non plus, j'ai survendu là.
Ah oui, tu l'as survendu.
Non mais alors, allez, moi président, il y a un jingle ou pas?
Ouais.
Allez, parfait.
Française, français.
Voilà, ah, pas mal. Oui, je m'attendais à casser notre projet, mais quoi était pas mal aussi. Ouais, alors il y a un truc que je me dis depuis assez longtemps, c'est que la location, ça ne devrait pas exister. Ce qui devrait exister, c'est la location avec option d'achat. Donc en fait, je pense, et alors tous les économistes qui s'y connaissent me diront que je suis complètement utopiste, mais je pense qu'on ne devrait jamais avoir le droit de louer un appartement ou une maison. On devrait toujours avoir une option d'achat quand on est locataire. La location et l'immobilier, c'est une super machine pour rendre plus riche des mecs qui ont déjà pas mal de pognon. C'est-à-dire que grosso modo tu prends pas
là tu parles que dans l'immobilier parce que la location
je parle dans l'immobilier excuse-moi je suis sur l'immobilier
aussi oui. Sur une machine à laver ou sur
alors la LOA existe la LOA c'est un truc qui existe déjà dans les voitures
ouais.
Hein, location d'option d'achat donc là je parle d'immobilier dans le sens où quelques enfin tu vois en fait t'achètes un appartement à Paris, si t'as un tout petit peu regardé les prix, tu vas pouvoir quasiment l'auto-liquider, rembourser une grosse partie de l'emprunt par les loyers. Et si tu veux, quand tu regardes la France, t'as des mecs qui finissent leur vie encore locataires. Mmh. Ces mecs, ça fait 40 ans qu'ils lâchent un loyer. Bout à bout, s'est mis tous ses loyers, il aurait pu acheter son appartement et vivre chez lui. Et en fait, il est locataire.
Mais il n'a pas eu la possibilité au départ de l'acheter.
Exactement. Et donc, du coup, je pense que la location est très importante parce que ça fluidifie le marché. Les propriétaires jouent le rôle de market maker. Là-dessus, tu peux pas dire, tu peux pas interdire la location, ça n'a pas de sens. Par contre, et je sais pas comment, hein, là, je largue ma bombe et j'ai aucune idée.
Parce qu'il y a
de
des gens qui veulent le léguer à leurs enfants.
Oui, mais alors me lance pas sur l'héritage parce que je pense que le taux d'accession sur l'héritage devrait être 100%. Donc,
vas-y, je te lance sur l'héritage.
Alors,
l'héritage.
Je vois, c'est okay. En fait, l'héritage est une catastrophe.
Ah là, Yvan Chouinard.
Hein?
C'est tout récent. Yvan Chouinard, patron de Patagonia, pardon.
Oui, qui a
ah oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que. On teste finir sur l'étage.
Non, mais sur l'étage, ça c'est lié à ça. C'est que pouvoir léguer un peu. Alors, les Français sont contre la taxation sur l'étage, ce qui est assez bizarroïde parce que l'immense majorité des Français ne payent pas d'impôt sur l'étage. Donc, si tu augmentes la taxation sur l'étage, tu augmentes la taxe sur les autres, pas sur eux. Et ça va être pour. Objectivement, il existe
un.
Non, mais c'est parce que oui, c'est bizarre. C'est dire on taxe les morts. Bah oui, c'est très bien taxer les morts parce que l'alternative, c'est taxer les vivants. Vaut mieux taxer les gens qui sont morts, ils s'en foutent, ils sont morts. Pour de vrai, tu vois. La réalité, c'est qu'il faut remettre la balle en jeu et que être capable de léguer quelque chose, de léguer déjà le premier truc que tu lègues, c'est une manière d'être, c'est tu vois des pensées, c'est une culture. Mais après léguer, tu vois le meuble, les trucs de famille, machin, dans lequel tu t'y attaches. Oui, léguer un patrimoine à 5 plaques à tes gamins, honnêtement, ça ne fait pas de sens. Et tu crées des dynasties parce que du coup, tu sais, c'est un truc qui se juste qui campagne. Et je veux dire, en France comme partout ailleurs, tu as des grandes dynasties. J'ai rien contre les dynasties, mais je pense qu'il faut remettre la balle en jeu et faire gagner. Je suis très darwinien et la vraie, si t'es vraiment capitaliste, c'est vraiment libéral. Et tu remets la balle au centre et tu dis que le meilleur gagne. Tu dis pas que le mieux né gagne. Et donc, je pense qu'on devrait taxer à 100% l'héritage à partir de pas forcément beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas prévu de léguer grand chose à mes enfants.
Et tu leur en parles.
Je pense qu'ils s'en foutent un peu à 8 ouais. ans, si tu
oui,
veux.
Un peu tôt.
Je pense qu'on n'est pas encore dans la son économie.
Non, mais moi, j'ai regardé les statistiques, effectivement, d'ascenseur social. C'est un sujet qui nous intéresse en tant que 2050, citoyens, etc. Et en fait, c'est un réel problème. C'est que la transmission de patrimoine depuis beaucoup plus de générations que ce qu'on pense, depuis le 18e siècle, en fait, reste à peu près dans la même famille. Donc, il y a une question, on peut dire qu'on fait l'école républicaine, on a plein de bonnes intentions avec ça. Et la réalité, c'est qu'après, ça n'arrive pas forcément. D'ailleurs, même, Polytechnique que tu connais bien, bah, souvent on dit que c'est l'école des pères, et ça a été assez bien analysé, c'est qu'en fait, même s'il y a quelques cas d'ascenseur social à travers les grandes écoles, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et statistiquement, sur plusieurs générations, il y a très peu de transmission qui s'opère.
Mais ça, c'est deux sujets, parce que tu as le sujet de l'éducation.
Oui, je sais que dans l'héritage, il y a l'héritage culturel et l'héritage patrimonial. Mais
le pire, ce qui est complètement con dans l'héritage patrimonial, c'est qu'en plus, maintenant qu'on vit quand même assez vieux, t'hérites de tes parents quand t'as 60, 70 ans, c'est-à-dire, ta vie, elle est pliée. Genre, le moment où t'as besoin d'avoir du pognon, c'est quoi ?
Ça saute une génération même.
Non, mais la réalité, c'est qu'en plus, on peut assez facilement taxer beaucoup le patrimoine et dire qu'effectivement, on va donner son argent autrement. Mais on peut aussi quand même donner de l'argent à ses enfants avant. Il y a des mécanismes fiscaux qui le permettent.
Oui, mais justement, c'est ça, c'est que ça, pour le coup, c'est très bien. Si t'as de l'argent, c'est très bien que t'aides tes enfants à dire bah t'as pas besoin de faire un petit boulot pendant tes études, au tout début de ta vie, tu vois, je vais t'aider à acheter ton premier appartement, puis tu t'as un gamin, tu sais, ça coûte cher les enfants, donc genre je t'aide à ce moment-là, et c'est là où l'argent est utile. Mais te dire qu'à 70 ans tu vas pouvoir t'acheter un deuxième château en Sologne, c'est complètement con, et en plus ça augmente le prix de l'immobilier. Parce c'est que vrai. Ce truc-là fait que l'immobilier coûte plus cher. Donc, pour les autres qui, eux, n'ont pas de patrimoine, ils payent plus cher. Donc, l'héritage est une catastrophe.
Et l'assista de Louis est...
Et Edwige Michaud, que je connais pas hyper bien, c'est marrant, mais j'ai pensé à elle directement quand tu m'as posé la question. C'est la fondatrice d'une boîte qui s'appelle Barouders. Barouders, c'est une marketplace d'équipements sportifs reconditionnés. Alors déjà, juste, je trouve le projet super cool et je trouve que globalement, le reconditionné, tu vois, on parlait tout à l'heure d'obsolescence programmée, c'est juste un no-brainer que si on peut arrêter de refabriquer des tonnes de trucs et de réutiliser ce qui marche encore très bien, c'est top. Et tu vois, je sais pas si la boîte marchera ou pas, mais je trouve que c'est évidemment la bonne idée. Et j'ai parlé à Edwige récemment et je trouve que c'est toujours dur de savoir si un fondateur ou une fondatrice va réussir, mais moi pas mal impressionné par son drive. J'aime beaucoup les gens qui ont du drive, et est-ce que ça marche ou pas, j'en sais foutre rien, mais ce sera pas par défaut d'énergie, tu vois, ce côté un peu là, la pile électrique qui est un peu partout, qui est en même temps très précis, c'est-à-dire que c'est pas all over the place, tu vois, c'est pas le projet qui part dans tous les sens, c'est la précision du drive. Moi je trouve ça vachement impressionnant.
Et est-ce que tu as une question à lui poser, puisqu'on va lui dédier, tu sais, un podcast, et on va te faire le porte-parole.
Ouais, mais alors je peux lui poser la question. Le problème, c'est que j'ai passé pas le temps avec elle, j'ai posé déjà un paquet de questions.
Oui, mais une question qui va avoir du sens peut-être aussi pour les auditeurs.
Et voilà, j'allais dire. Et celle qui est très sympa, c'est de demander, comme toujours, pourquoi tu crées une boîte?
Eh ben, ce sera l'une des premières questions que notre associé Solène lui posera. Louis, c'était un plaisir.
Ouais,
vraiment, on avait deviné aux questions surprises que ce serait un plaisir, mais je le confirme. Un grand merci et j'espère à très bientôt pour un épisode spécial fail.
Ah bah, quand tu veux.
On essaiera d'être un peu plus serré sur le timing.
Mais pas sur le fail d'Alma, ça n'arrivera jamais.
Il croise les doigts.
Alors on croise les doigts.
Merci
à tous.
C'était hyper dynamique et pushy.
40 nuances de Next.
Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.